vidéo.
Et tout de suite, on va parler jeux vidéo et philosophie avec toi, Dylan, puisque tu vas nous parler d'un jeu qui s'appelle 12 Minutes.
12 Minutes. Il est 17h, donc 17h55, 56, 57. Bon, on n'est pas à ça près. Aujourd'hui, une question qui, je suis sûr, ne vous a jamais été posée. Quelle est votre heure préférée dans la journée? C'est chelou, mais il faut répondre.
Oula.
Voilà.
Il nous pose une
alors,
colle.
Alors, perso, moi, ça serait 3h du matin.
Okay.
Ou minuit, l'heure des sorcières.
Évidemment que t'as répondu ça.
L'heure de manger.
J'aime beaucoup cette réponse.
Pas mieux, ouais, l'heure réponse. De manger aussi.
Joris.
Moi, pareil, je dirais 16h parce qu'en fait, j'avais interdiction de prendre mon goûter avant 16h. Et je me souviens quand j'étais petit, mais vraiment, j'attendais devant l'horloge pendant un quart d'heure jusqu'à ce que ça arrive jusqu'au. Et à pile. Je disais « Maman, maman, il est 16h !» Et je pouvais manger, voilà. Donc 16h, je pense.
Merci, ça te va. Je m'attendais pas à ça.
Ça te va comme réponse,
ça
Dylan?
Ça me va, ça me va, ça me va. De mon côté, et après avoir longuement réfléchi, je pense qu'il s'agirait du créneau de 23h à minuit. Il commence à se faire tard, mais pas trop. Une douce fatigue se dépose peu à peu sur nos êtres. Le monde se tient là, mais demeure silencieux. Il se garde bien de venir nous tracasser, car à 23h, il est quand même un peu tard. De la rudimentaire clepsydre égyptienne à nos montres connectées ultra modernes permettant même de connaître notre taux d'oxygène dans le sang, la mesure du temps a depuis longtemps été une préoccupation importante pour les civilisations humaines, tant cette dernière est capitale pour l'organisation des aspects sociaux, religieux et économiques des sociétés. Vérification rapide, qu'est-ce qu'une clepsydre ?
C'est les sabliers en eau que tu as dans Fort Boyard, par exemple.
Pas exactement.
C'est deux récipients où il y en a un où en fait l'eau s'écoule sur l'autre et ça permet de, du coup de mesurer le temps et on mesure le temps sur le temps où
la durée que
l'eau s'écoule. Du coup.
Exactement, pour les discours politiques, etc., pour assurer une certaine... Voilà.
T'es bon, Raphaël, hein.
J'ai fait un exposé sur les objets de mesure du temps en troisième.
Ah, tout s'explique.
Wow. Cette chronique était faite pour toi. Alors, comme on pouvait s'y attendre, le temps a depuis longtemps suscité l'intérêt des auteurs, et ce, dans divers domaines. En poésie, avec Le Pont Mirabeau d'Apollinaire, par exemple, dans le cinéma avec Interstellar de Christopher Nolan, et bien sûr, en philosophie. Pour ce dernier point, nous allons nous intéresser à Henri Bergson, écrivain et philosophe français du 19e et 20e siècle. Dans son essai sur les données immédiates de la conscience de 1889, il nous dit la chose suivante. Si tous les mouvements de l'univers étaient uniformément accélérés, bien mieux, si à la limite une rapidité infinie resserrait le successif dans l'instantané, aucune formule scientifique ne serait modifiée. Cette situation fictive fait bien sentir que le temps de la conscience n'est pas celui de l'existence. Qu'est-ce donc que ce temps de l'existence auquel le bergsonisme affectera le mot « durée » ? C'est le temps vécu et, comme tel, donné là où il est vécu, dans la conscience. Le temps est donc compris de deux manières, selon Bergson, soit par la conscience, soit par la science, par la technique. Le temps subjectif de la conscience est lié à nos représentations, pensées, sentiments, alors que le temps objectif, celui de l'univers, agit comme une mesure universelle du temps. La perception du temps individuel diffère donc du temps objectif dont il est question lorsqu'on traite des sciences et des règles de l'univers. Imaginons maintenant qu'il existe un monde dans lequel les règles de l'univers se seraient tordues autour de la perception d'un individu. Ce faisant, celles-ci s'entremêlent de telle sorte que l'individu en question se retrouve prisonnier d'une geôle dont il ne voit pas les barreaux, dont il ne connaît pas les règles, une prison qui serait son propre foyer. 12 Minutes est un jeu d'aventure en point and click développé par Luis Antonio et édité par Annapurna Interactive, sorti en août 2021 sur PC, Xbox et Xbox Series, puis sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch, parce qu'il en faut pour tout le monde.
Merci Dylan.
Voilà. Le jeu s'ouvre sur une scène des plus anodines. Un homme, qui restera anonyme durant toute votre aventure, prend l'ascenseur en destination de son appartement. La journée a été rude. Il n'a quitté le bureau que très tard. Il aspire à un repos bien mérité. Seulement, étourdi comme il est, il a encore oublié ses clés. Fort heureusement, il peut compter sur sa femme, qui lui a laissé un double caché dans le couloir. Il entre enfin. Notre jeune couple, dont les seules appellations à travers le jeu seront mari et femme, s'apprête donc à passer une soirée merveilleuse, avec la perspective d'une superbe nouvelle qui viendra changer leur quotidien. Une soirée qui ne pourra rien gâcher, en somme, une véritable invitation au bonheur, un invité à 7 heures, qui cela pourrait-il bien être ? Et là, sur le seuil de la porte, il se tient, le fantôme du passé, apparaissant à la porte sous les traits d'un homme chauve et chauve barbu, au visage impassible. Il prétend être de la police, mais ses méthodes ne collent pas. En un instant, les voilà menottés au sol, mari et femme, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et celle-ci approche à grands pas. En effet, ce policier, qui n'en a que le titre, n'aime pas les réponses qui lui sont apportées. Il semble en vouloir à la femme, mais face au refus de coopérer de cette dernière, il se tourne vers le mari, voyant en lui un moyen de faire pression. Et la pression, il l'appliqua. Avec ses mains enveloppées de gants de cuir, il serra le cou du mari jusqu'à ce que celui-ci rentre à nouveau dans l'appartement. Quoi ? Le voilà de retour sur le pas de la porte, et vous revoilà au début du jeu, avant même que la soirée de notre cher couple ne commence. Mais que se passe-t-il ici ? Eh bien cela, c'est à vous de le découvrir. Incarnant le mari qui découvre que sa femme lui avait caché toute une partie de sa vie, vous allez devoir révéler la vérité qui se terre dans son passé. Le tout en étant enfermé par le temps lui-même, car toute l'aventure se déroule sur la même boucle temporelle de 12 minutes. Aussi, dans cet escape game temporel aux enjeux morbides, vous vous attelez à trouver les réponses qui vous serviront de clés pour vous en sortir et lever le voile sur le passé de votre femme. Mon expérience du jeu a été en demi-teinte. En effet, comme je vous le disais déjà la dernière fois, face à 12 minutes, j'ai dû m'avouer vaincu. Le jeu vous laissera faire un bon nombre d'interactions. La plupart d'entre elles seront vaines et ne vous mèneront qu'à des impasses. Alors vous réessayez dans une autre boucle, avec un nouvel objet, sur un autre timing. Peut-être que ça passera cette fois. Mais il n'en est souvent rien. Souvent, mais pas tout le temps. Et c'est là que survient l'épiphanie. Il apparaît dans mon esprit un schéma mental qui me débloquera, qui me sortira de cette impasse temporelle, et ça marche. Oui, enfin de nouveaux éléments. Quoi ? Un meurtre ? Mais pourquoi ? Et alors, je me lance à nouveau dans cette aventure temporelle munie de mon énergie retrouvée. Je lui fais à nouveau face, dépité, je me tiens à nouveau devant cette impasse dont je m'étais sûr de m'être débarrassé. J'ai lutté tant bien que mal, mais le jeu aura eu raison de moi. Et avec une douce amertume qui torturait mon âme de joueur, mais attisait ma curiosité, j'ai délaissé 12 minutes pour aller chercher des réponses directement, sans me casser la tête. Et j'ai vu tout ce que le jeu avait encore en réserve pour moi. J'ai vu tout ce que j'avais raté, mais j'avais bel et bien abandonné. Et qu'on se le dise, le format point and click ne permet pas vraiment de mettre l'accent sur le gameplay et donc ne permet pas réellement la rejouabilité une fois que tous les squelettes ont été sortis de leur placard. Et cela, malgré les multiples fins que propose le jeu. Mais j'ai pris un certain plaisir, passant de la frustration de l'impasse à l'excitation d'une nouvelle idée. Mais 12 minutes m'obsédait de plus en plus. Passant d'une pensée qui me traversait l'esprit de temps en temps, même lorsque je ne jouais pas, à une fenêtre d'ordinateur constamment en exécution dans un coin de ma tête. Et avant que ce nombre ne me rende fou, un peu à la manière de Jim Carrey dans le film Le Nombre 23, j'ai préféré déposer la manette en me disant moi aussi, c'est juste un nombre.
Campus Bordeaux. Et merci Dylan pour ce retour sur ce jeu. Alors je suis assez surprise, je pensais que tu me ferais une petite pique ou une petite tacle.
J'attendais exactement ce moment-là pour le faire, du coup je te remercie.
J'ai tendu le bâton.
Tu as activé ma carte piège. Alors, il faut savoir, alors ce jeu-là, il est aussi disponible sur Netflix Gaming.
Si on a Netflix, on peut y jouer.
Exactement.
Oui, tout à fait, ouais.
Sur ton téléphone.
Exactement. Ah. Et par contre, fais gaffe à ta batterie. Fais pas ça en début de journée. Du coup, j'ai joué avec Mélissa et c'est un spoil qui apparaît au début du jeu. La nouvelle en question que j'évoque, c'est la venue d'un bébé dans la vie de ce couple. Et du coup, le jeu vous laisse faire des choix au niveau des propositions. Lorsqu'on a demandé à Mélissa, lorsque la femme a demandé à Mélissa, a annoncé à Mélissa qu'elle était enceinte, sa réponse a été t'en es sûr ? Je pensais que tu prenais la pilule. Du coup, autant vous dire que la meuf, elle était énervée, à juste titre, parce que c'était un manque de tact effroyable de ta part, Mélissa.
Mais non, pas du tout. J'étais inquiet. Inquiète. Tu vois, j'ai tellement incarné le mari que je me suis projetée dans le jeu et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Tu vois, c'était pas un t'es sûr, oh, je veux pas du bébé, c'était un es-tu sûr ? C'était pas prévu, tu vois.
Ouais. Alors, il y avait trois réponses. Grosso modo, il y en avait une qui était super, genre, youhou, je vais être papa. L'autre qui était, comment dire, voilà, un peu assez équilibré dans le sens où il disait, oui, mais je sais pas comment être père, j'ai jamais appris, etc. Et voilà, c'est, moi, c'est la réponse que j'ai choisie. C'est la réponse peut-être la plus humaine, effectivement. Quand, voilà. Mais non, toi, t'as choisi l'autre. Voilà.
Mais je voulais être sûre, ouais, avant de dire, ah, ben, bah, ok, cool, on verra comment on fait ça ensemble.
J'espère que t'es fier de toi.
Ben, bah, plus maintenant, visiblement. Est-ce que vous... Oui, Maxence.
Je sais que si t'aimes bien ce genre de jeu, bah forcément un autre jeu qui est toujours développé par Annapurna, parce qu'Annapurna, enfin édité je crois, parce que les jeux d'Annapurna sont fantastiques, il y a Outer Wilds qui se déroule aussi dans une boucle temporelle, que d'ailleurs j'ai fini il y a deux jours.
Ok, bah je prends note.
Tu fais partie de la secte toi aussi.
On parlait pas de secte juste avant, non je sais plus. Je prends note, mais je pense avoir... Un peu, enfin, j'avais pas trop essayé les point and click jusqu'à maintenant, mais je pense que le manque de gameplay à proprement parler est pour moi une forme de. Comment dire ? Ouais, pour moi, ça passe pas.
Dans un jeu à boucle temporelle, ça pose problème, quoi, c'est ça que tu veux dire.
Voilà, c'est ça. Et même dans un jeu vidéo tout court, après là, ça passe. Enfin, j'imagine que dans Outer Wilds, il y a une histoire.
C'est pas du point and click. C'est vrai, c'est un jeu de puzzle là, où t'es à la première personne et tu peux faire des actions en prenant des objets ou des trucs dans le genre.
Ok. Bon.
Dans un système solaire.
À voir.
J'ai une question. C'est quoi le point and click ?
Alors, point and click.
Excellente question, Swan.
Voilà, parce qu'effectivement, on finit par angliciser tous les termes en France.
Et surtout, on n'est pas tous gamers, donc on ne sait pas forcément ce que ça signifie.
Joueur, Mélissa, joueur.
Oui, pardon.
Voilà. du coup, c'est pour point and click, c'est pour du pointer, cliquer, et comme tu disais, Raphaël. Et en gros, si tu veux, c'est lorsque tes actions dans le jeu, ce sera la plupart du temps le fait de, mais avec ton curseur, ta souris, etc., d'aller chercher un objet, d'aller chercher une interaction avec ça, etc., etc. Dans 12 minutes, ça permet des combinaisons. Par exemple, on peut se poignarder et poignarder les gens. Voilà. Je sais pas. C'est l'exemple qui m'est venu là tout de suite.
Par exemple, tu pointes et tu cliques. Donc tu pointes sur le couteau, ouais, et tu cliques et tu prends le couteau et tu pointes et tu cliques à nouveau pour planter le couteau.
Historiquement, le point and click est un genre associé au genre d'enquête où en fait souvent tu joues un enquêteur ou dans ce style-là et tu vas essayer
avec
de résoudre. Voilà,
tout.
Tu vas essayer de résoudre un meurtre. Et historiquement, les jeux les plus connus, c'est des jeux qui ont été développés par Lucasfilm. Enfin, LucasArts, du coup, pour l'époque, mais qui, du coup, c'était des spin-offs de Indiana Jones ou des trucs dans le genre.
Ah,
voilà,
okay.
C'est des exemples plutôt connus, quoi.
Okay.
Après, je crois que le point and click les plus connus, c'est soit Monkey Island, soit Five Nights at Freddy's.
Ouais, mais Final Fantasy, c'est un jeu d'horreur, ça correspond pas à tout le monde.
Mais Monkey Island, c'est des rapports aussi. C'est le jeu avec les insultes, là. C'est
oui,
là,
oui, voilà, où okay. Du coup, il y a des joutes verbales où tu choisis tes textes et du coup, oui, tu peux vraiment. En fait, les duels dans le jeu, c'est des pirates, sauf qu'en fait, ils s'insultent et ça fait des. C'est comme ça qu'ils meurent dans le jeu. C'est un peu ridicule, mais c'est très drôle. Mm-hmm. Et c'est aussi développé par LucasArts, il me semble.
Et moi aussi, j'ai des jeux point and click à recommander. Déjà, il y a la saga Professeur Layton. Alors, c'est en exclusivité sur Nintendo DS. Et j'ai un jeu un peu moins connu qui s'appelle Agatha Knife. Et où on incarne une petite fille qui souhaite créer sa propre religion pour continuer à pouvoir tuer des animaux et les manger et les vendre dans sa boucherie.
Merci, Mélissa.
De rien. C'est un excellent jeu. J'y ai joué pendant le confinement. C'est assez rigolo. Non, mais pour vous expliquer un peu plus en détail.
Quoi ?
Attendez, c'est pas si cruel que ça. Ça part d'un bon sentiment. Agatha Knife, c'est une petite fille de 6 ans et sa mère tient une boucherie et la boucherie est en difficulté. Et en fait, ils élèvent leurs propres animaux et Agatha adore les animaux, mais elle aime aussi les tuer. Et ça lui fait de la peine de tuer ces animaux parce qu'elle se rend compte que les animaux sont en stress, qu'ils sentent le moment où ils vont se faire tuer. Mmh. Et donc, elle se dit qu'elle va créer une sorte de religion, de secte, pour faire croire à ces animaux que c'est un sacrifice honorable et comme ça, ils partiront en paix. Et le but du jeu, c'est de réunir tous les éléments pour pouvoir créer sa propre religion, un espèce de temple du bien-être pour les animaux, pour pouvoir les tuer.
Ne parlez pas de ce jeu à la PETA, par pitié.
Et du coup, pour toi, le fait de, comment dire, de mentir à ces animaux et de leur faire croire que qu'ils vont voilà, qu'ils se sacrifient pour une bonne cause, ça retire ça ôte de l'horreur de la boucherie, c'est ça?
Mais j'ai pas créé le jeu, j'ai juste joué. C'est une critique de la religion, c'est ça, une satire, justement.
C'est à cause de, des gens comme, comme toi que je suis devenu vegan.
Mais c'est satirique. Oh là là, bah écoutez, jouez au jeu pour vous faire votre propre avis.